à toutes et tous. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, nous sommes réunis, Colette pour la LDH, Marianne pour Amnesty International et moi-même pour la CIMAD, chacune engagée au sein de son association sur les questions féministes. Nous voudrions échanger autour des thématiques du droit, des femmes étrangères et des femmes d'ailleurs. Colette, je crois que tu voulais poser une question à Marianne.
Oui, je voudrais que tu me dises un petit peu pourquoi une journée internationale des droits de la femme ou des femmes le 8 mars et quelle est son origine en particulier?
Alors, son origine, on la situe dans diverses manifestations de femmes, dont les luttes ouvrières pour le suffrage universel féminin en Amérique du Nord et en Europe au tout début du XXe siècle. En Amérique, une manifestation pour le droit de vote des femmes avait été organisée jusqu'en 1909 par le Parti socialiste américain. En parallèle, en 1910, en Europe, Clara Zetkin, présidente du secrétariat international des femmes socialistes, propose l'instauration d'une journée des femmes à célébrer pour l'obtention du droit de vote. Au fil des années, des rassemblements de femmes ont eu lieu en Allemagne, en France, en Autriche, au Danemark, en Suisse, en Russie, au Québec, et finalement, la date du 8 mars s'impose peu à peu. Enfin, en 1977, l'ONU invite chaque pays de la planète à consacrer une journée à la célébration des droits des femmes. Ce sera donc le 8 mars.
Très bien, pour cette vue historique de cette date. Et maintenant, aujourd'hui, quels sont les objectifs de cette Journée internationale des droits des femmes?
Alors, les objectifs, tout d'abord, ce sont les fêter les acquis, souligner le chemin parcouru à chaque fois. Ensuite, et toujours, ce sont dénoncer les discriminations, les inégalités, les violences vécues par les femmes. Améliorer la situation des femmes en agissant sur les acteurs institutionnels.
Très bien, merci.
Justement, Colette, concernant les acquis récents, peux-tu nous parler de la constitutionnalisation de l'IVG?
Alors, c'est en effet une grande victoire, car lundi 4 mars, la France est devenue le premier pays au monde à inscrire explicitement dans sa constitution l'IVG, 49 ans après la promulgation de la loi Veil sur la dépénalisation de l'avortement. Les parlementaires français ont voté à une écrasante majorité en faveur de l'inscription dans la loi fondamentale de, et je cite, « la liberté garantie pour une femme d'avoir recours à une IVG ». Bien sûr, beaucoup d'associations féministes, nous aurions préféré que le mot « droit » soit inscrit dans la Constitution plutôt que « liberté garantie », qui est un petit peu plus fragile. C'est donc une victoire pour toutes les personnes qui défendent ce droit en France et dans le monde.
Mes collègues, j'ai entendu dire que certains centres pratiquant l'IVG avaient fermé ces dernières années. Peux-tu nous en dire plus à ce sujet?
Oui, en effet. Bien que nous voyons cette inscription dans la Constitution comme une victoire, il faut continuer la lutte. Car, comme tu dis, il y a des territoires entiers où les femmes n'ont pas accès à des centres où l'on pratique l'IVG. Près de 8% des centres ont fermé en 10 ans. 17% de femmes doivent changer de département pour y recourir. De plus, il y a des délais de prise de rendez-vous qui mettent à risque les femmes qui veulent une IVG dans les délais prescrits par la loi. Il faut donc voter un budget pour que les lieux où les professionnels de santé accueillent les femmes, soit à la hauteur des besoins. Il faut aussi garantir la sécurité et la bonne santé des femmes qui souhaitent avorter. Et finalement, très important, il faut lutter contre toute forme d'activistes anti-avortement, en particulier les informations toxiques et mensongères sur l'IVG qui circulent sur les réseaux sociaux. Notamment que l'une des causes majeures de mortalité pour les femmes serait liée à l'IVG. Alors que, tu le sais, Marianne, et toi aussi Sabine, au contraire, les avortements pratiqués illégalement sont la troisième cause de mortalité maternelle dans le monde. En réalité, l'IVG est un des actes médicaux les plus sûrs.
Merci Colette pour ce brillant exposé. Et maintenant, je me tourne vers Sabine, toi qui agis au sein de la CIMAD. Que se passe-t-il pour les femmes étrangères ?
Alors, eh bien, en effet, alors, à la CIMAD, Association nationale de solidarité active avec les personnes étrangères, nous accompagnons les femmes dans l'exercice de leurs droits. Concernant l'accès aux soins, et notamment à l'IVG, il est déterminé par la situation administrative des femmes étrangères. Étant donné la multitude de situations administratives, autant dire qu'elles sont parmi les plus fragiles. Pour bénéficier de l'AME, il faut justifier de 3 mois de présence en France et pouvoir le documenter pour faire la demande. Donc pendant 3 mois, elles n'ont pas accès aux soins gratuits. Puis, les justificatifs demandés excluent d'emblée toutes celles qui ne sont pas en capacité de les fournir. Il n'est pas toujours aisé d'obtenir une attestation d'hébergement, notamment, et cela les place en position de dépendance aussi. Leur droit au séjour est souvent déterminé par leur vie de couple. Là encore s'installe une dépendance administrative qui ouvre la porte à tout type de chantage. Et lorsque le couple ne fonctionne plus, elles peuvent être victimes de violences, dont une qui est particulièrement impactante, la violence administrative. C'est-à-dire, elle peut prendre différentes formes, comme la confiscation du passeport, la rétention du mot de passe ou du numéro d'étranger, qui permet d'accéder au compte personnel obligatoire pour les étrangers, sur le site dédié aux étrangers, donc l'ANEF, c'est-à-dire l'administration numérique des étrangers en France, qui dépend du ministère de l'Intérieur. Ce compte est obligatoire et elles ont donc besoin d'un numéro d'étranger et un mot de passe. Et donc, il n'est pas rare que leur conjoint conserve et fasse une rétention d'informations. Donc, elles n'ont plus accès à leur compte. Et il n'est pas rare de rencontrer, lors de nos permanences, des femmes qui évoquent timidement une situation de chantage et de violence. Et nous expliquent qu'elles n'arrivent pas à déposer une demande en ligne, car leur conjoint refuse de leur donner ces informations obligatoires. Bien souvent, à cause des barrières structurelles comme la barrière de la langue, l'isolement, la barrière numérique aussi, puisque désormais tout se fait de façon numérique, ou la méconnaissance de leurs droits, ce sont les conjoints qui effectuent toutes les démarches pour le titre de séjour. Mais lorsque l'harmonie dans le couple n'est plus d'actualité, ces femmes se retrouvent privées de tout droit et démunies. Elles subissent deux types de violences, donc la violence de genre et la violence administrative. Et bien évidemment, elles craignent de perdre leur titre de séjour si elles portent plainte pour dénoncer leur conjoint. Elles peuvent subir la séquestration, qui a pour but de les isoler totalement. Celles qui sont sans titre de séjour sont encore plus vulnérables et bien souvent victimes de chantage sexuel qui les mène dans des réseaux de prostitution malgré elles. Parmi ces femmes, il y a les demandeuses d'asile qui ont été déboutées et sont abandonnées du coup par l'administration française. Elles tentent de survivre alors en France ou ailleurs en Europe, puisque la situation est la même lorsqu'elles sont déboutées. Elles ont fui pourtant des violences et des situations de conflit ou de guerre. La violence est sans fin pour ces femmes. Elles sont invisibles car sans droit.
Bien, Colette, et vous à la LDH, comment vous emparez-vous du sujet des femmes ?
Alors d'abord, je voudrais rappeler que la LDH est la plus ancienne association de France, créée en 1898 pour la défense des libertés et de l'ensemble des droits concernant les femmes et les hommes. Sur Aix, nous avons un groupe de travail droits des femmes, qui se réunit en moyenne une fois par mois. Et nous avons notamment rédigé une brochure sur l'IVG. Nous joignons aussi nos forces à d'autres associations engagées sur la question des femmes. Les violences faites aux femmes est au cœur de notre lutte depuis plusieurs années. Au sein d'un collectif, depuis 2022, nous avons réalisé 2 colloques et une journée avec table ronde sur ce sujet. À ces occasions, nous distribuons des violentomètres et autres documents pour aider les femmes. Nous soutenons aussi, en tant que membres de la LDH, toutes les femmes victimes de violences partout dans le monde. Et toi, Marianne, qu'en est-il avec Amnesty International ?
Alors, nous, au sein d'Amnesty International, nous avons également des commissions femmes qui s'intéressent plus particulièrement à ce sujet. Mais Amnesty défend dans le monde tous les droits humains des femmes et des hommes. Et depuis 2 ans, nous avons particulièrement mené une campagne pour la défense des femmes afghanes dont les droits humains les plus élémentaires sont bafoués en Afghanistan. Elles ne peuvent plus ni travailler, ni étudier, ni se déplacer près de chez elles sans un chaperon masculin. Celles qui veulent fuir leur pays sont obligées d'aller en Iran ou au Pakistan pour demander un visa, car il n'y a plus de consulat en Afghanistan. Nous demandons au président de la République, M. Macron, notre pétition l'indique, d'accorder davantage de visas à ces femmes, comme il s'y était engagé. Jusqu'à présent, les visas ne sont accordés qu'au compte-gouttes. On sait que 5 d'entre elles sont arrivées à Paris en septembre 2023. Qu'en est-il des autres ? Une dernière information qui vient de nous arriver, alors que le Congrès réuni à Versailles vient de voter l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution, une autre évolution majeure pour la protection des droits des femmes est passée presque inaperçue. La reconnaissance par la Cour de justice de l'Union européenne, en janvier dernier, des femmes comme groupe social au sein de la Convention de Genève de 1951. C'est très important pour les femmes et notamment pour les femmes afghanes et on espère que cette nouvelle règle va faire évoluer leur situation dans les années à venir. Enfin, maintenant, nous allons vous rappeler le programme de la journée du 8 mars et du 9 mars. Sur Aix, que va-t-il se passer ? Demain, le 8 mars, il va y avoir un film qui sera projeté à 20h30 au Mazarin. C'est à l'initiative d'Amnesty International, de la LDH, de la CIMAD, mais aussi des cinémas aixois, que ce film, qui s'intitule « Il reste encore demain », passe en avant-première. Il traite des questions du patriarcat et donnera lieu, on l'espère, à des échanges riches avec le public. Juste avant, le groupe des Rosies d'Attaque nous feront le plaisir et l'honneur de présenter leur chorégraphie devant le cinéma. Nous vous y attendons, nombreuses et nombreux. Mais dis-moi, Colette, je crois qu'il y a d'autres actions prévues à Aix.
Oui, en effet, il y a le samedi matin, les associations seront au marché du centre-ville et elles vont distribuer des tracts sur l'IVG et d'autres documents, comme des violentomètres, des numéros de sécurité. Et à 11h30, elles sont aux côtés du Cercle de silence, aux Allées Provençales, avec une exposition sur les droits des femmes. Mais je crois, Sabine, qu'il y a aussi quelque chose qui se passe l'après-midi, n'est-ce pas ?
Oui, en effet, Colette. Alors, la CIMAD, la LDH et puis Amnesty International, on se retrouve samedi après-midi au Château de l'Horloge sur un événement organisé par la TMF, l'Association des travailleurs maghrébins de France, qui a une journée spéciale dédiée aux droits des femmes. Donc, c'est à partir de 14h. Une journée riche en échanges, avec des récits de femmes, des poésies, des musiques et je crois un petit rafraîchissement oriental. Et puis la semaine prochaine, ça continue. Le 13 mars au 3C, Attaque organise une soirée pour déconstruire le sexisme avec des étudiantes de l'IUP et des étudiantes de l'université de musicologie. Et puis le 16 mars prochain, à la MJC, il y a de nouveau un après-midi dédié aux femmes, avec une participation des associations encore aixoises. Alors nous vous attendons nombreuses et nombreuses pour ces journées à venir, qui seront pleines d'émotions, de moments festifs, d'échanges constructifs, pour évoluer ensemble et changer les mentalités et les regards.
Toutes les trois, nous sommes engagées dans nos associations respectives depuis plusieurs années et nous en tirons un enrichissement personnel de savoir que nous pouvons œuvrer ensemble pour une cause commune. Je vous renvoie sur les liens respectifs de nos associations si vous voulez en savoir plus.
Nous avons été heureuses de pouvoir réaliser cette émission ensemble. Merci à Radio Zale d'avoir mis à notre disposition cet outil et à très vite.